Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux visites radiophoniques. Je suis avec Bénédicte Bougnol du pays d'art et d'histoire. Salut Bénédicte.
Bonjour.
Et puis Xavier Mirmand qui nous accompagne pour cet épisode, professeur d'histoire géo au lycée Pétavin. Salut Xavier.
Salut.
Et donc vous m'amenez où aujourd'hui pour cette visite radiophonique, Bénédicte ?
Eh bien aujourd'hui, on va t'amener à Mende dans un endroit méconnu du grand public.
Allez, c'est parti.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le pays d'art et d'histoire Mende et Lotte en Gévaudan et le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Alors on n'a pas beaucoup roulé pour cet épisode, mais on a roulé quand même. On est arrivé où, Bénédicte ?
Alors, nous sommes arrivés sur les hauteurs de la ville, dans le faubourg sud-est et au pied du Mont Mima. Nous sommes rue de la Chicanette. Alors, devant nous, il y a un grand mur gris. Et derrière ce grand mur se cache un ensemble de bâtiments qui abritent une congrégation religieuse, la Providence.
La Providence, ça me dit quelque chose. Il me semble que j'ai déjà entendu parler de la Providence lors d'une précédente visite radiophonique, Xavier.
Oui, tu dois penser au château du Boy sur la commune de Lannuéjouls. Et tu as raison, puisque le château du Boy est également la propriété de la Providence.
Et justement, si on parle de la Providence, Xavier, c'est quoi son histoire ?
Mais c'est une histoire qui remonte à un peu plus de deux siècles, puisque en 1820, on crée la communauté des Sœurs de la Providence à l'initiative donc de trois personnes, Rose Bourillon, Victoire Bergougne et l'abbé Chapelle. Ils souhaitent œuvrer à l'enseignement et aux soins, et en particulier à l'accueil et à l'éducation des orphelines et au service des malades. Alors au départ, la communauté compte seulement quelques religieuses et orphelines, mais elle va progressivement s'agrandir au fil du 19e siècle.
Et pour compléter, la communauté s'installe d'abord dans une première maison qui est dans le quartier de la Vabre, un petit peu plus haut. Et comme l'a dit Xavier, le nombre de religieuses et d'orphelines ne va cesser d'augmenter. Et en 1864, malgré les agrandissements successifs, la maison de la Vabre s'avère trop petite. Et donc il faut chercher un autre emplacement et on va le trouver ici, rue de la Chicanette. Je te propose de rentrer.
Allez, on va rentrer avec nos auditeurs auditrices. C'est parti. Ah oui, effectivement, c'est grand. On n'imagine pas ça quand on est dans la rue de l'autre côté du mur.
Et oui, en fait, les religieuses, en s'installant rue de la Chicanette, vont investir des bâtiments qui datent du XVIIIe siècle. Alors devant nous, on peut les voir, ce sont les deux grands bâtiments en équerre qui sont sur trois étages et qui encadrent une grande cour. Il y a même un jardin derrière. Mais avec la guerre de 1870, ça va perturber un petit peu leur installation. Pendant un temps, les religieuses vont occuper les deux lieux, la Vabre et la Chicanette. Et ensuite, il faut attendre les années 1890 pour que la maison de la Chicanette devienne la maison mère. Ce lieu va être aménagé et agrandi au fil du temps. Alors je te propose d'entrer maintenant pour découvrir un lieu surprenant.
Alors on vient de rentrer dans le bâtiment, on est passé devant quelques arches, une statue et maintenant nous voici dans la chapelle, on peut entendre l'écho ici.
Et oui, nous voici dans la chapelle. Alors avant de la décrire, si tu veux, je vais revenir un petit peu sur son histoire. Alors quand les religieuses arrivent rue de la Chicanette, il n'y a pas de lieu de culte. Il faut donc construire une chapelle. Et c'est en 1894 qu'on décide de construire cette chapelle conventuelle. Et pour cela, on va faire appel au chanoine Laurent. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose. On en a déjà parlé dans les visites radiophoniques, notamment lors des visites de la chapelle de l'Évêché ou de l'église de Pelouse. Et je laisse Xavier te le présenter.
Je m'en souviens très bien.
Alors en effet, l'abbé Laurent est un personnage aux multiples facettes, qui est aujourd'hui assez méconnu du public lausérien, alors qu'en fait il a un parcours assez intéressant. Victor Onésime Laurent est né à Mende en 1842. Il a été d'abord professeur au collège de Langogne, puis curé à Cubières. avant d'être appelé à Mende comme secrétaire particulier de l'évêque de Mende de l'époque, qui s'appelait Monseigneur Coste. Ensuite, il a été professeur au Grand Séminaire de Mende, aumônier de la Providence. Enfin, il a été nommé vicaire général par Monseigneur Batifolier à la fin de la décennie 1890. Et il a bien fini sa carrière, puisqu'en 1906, il est nommé évêque de Cahors, où il meurt en 1911. Alors, l'intérêt, c'est qu'en fait, Monseigneur Coste, lorsqu'il était secrétaire particulier, va l'envoyer à Toulouse étudier l'architecture. Et il est même surnommé dans les journaux de l'époque le bâtisseur d'église. Il est assez productif, on lui doit donc de nombreux édifices dans la région, le grand, le petit séminaire à Mende, le Carmel, l'église de Pelouse, par exemple aussi celle de Saint-Denis à Margeride, dont il réalise les plans et assure la maîtrise d'ouvrage.
Mais pourquoi du coup on lui demande de construire autant d'églises à la fin du 19e siècle ?
Alors, pour bien comprendre, il faut d'abord appréhender le contexte religieux en Lozère au XIXe siècle. Après la période révolutionnaire, la Lozère connaît une situation religieuse tout à fait exceptionnelle. Les évêques de Mende, d'ailleurs, considèrent qu'ils sont gâtés du fait des très nombreuses vocations et de la ferveur des Lozériens. Donc, c'est une période marquée par un élan religieux qui conforte la foi traditionnelle en Haute-Lozère et dans l'Écosse et Valais, dans le département. Donc dans les années entre 1800 et 1850, le nombre de paroisses se multiplie et cela entraîne ainsi une fièvre de construction d'édifices religieux. Le clergé a une très forte influence et la ferveur des fidèles est grande, comme je l'ai dit. Le nombre de vocations augmente de façon considérable. De nombreux missionnaires sont formés ici et partent évangéliser aux quatre coins du monde. Il faut également remarquer que les deux tiers de ces vocations concernent donc les femmes. Des congrégations religieuses se développent et s'ancrent solidement sur ce territoire. Et il faut également, pour terminer, dire qu'en plus du rôle spirituel fondamental, ces congrégations vont également jouer un rôle social, éducatif, économique et s'intégrer dans la vie quotidienne des Lozériens.
Donc on comprend un peu plus la place importante que la Providence pouvait occuper à l'époque en Lozère.
Oui, et c'est pour ça qu'elles ont besoin de grands bâtiments et d'une grande chapelle. Cette chapelle doit être assez grande pour pouvoir accueillir les religieuses et les orphelines lors des offices. Et à l'époque de la construction, dans les années 1890, il devait y avoir plus de 20 religieuses et une cinquantaine d'enfants. Alors, ce qu'on ne remarque pas forcément quand on est à l'intérieur de la chapelle, c'est que la chapelle, en fait, elle est posée sur un étage de soubassement qui est là pour épouser le relief. En fait, on est dans la pente du terrain. Et alors, cet endroit, on va le surnommer la crypte, mais il est surtout utilisé comme préau, comme cour de récréation pour les orphelines. Et alors, si tu veux, on peut décrire l'intérieur de la chapelle. Alors, elle se compose d'une nef unique à quatre travées voûtées sur croisées d'ogives. La dernière travée, elle porte une double tribune et elle présente un chœur à cinq pans coupés. Alors à l'origine, dans le chœur, il y avait un imposant maître-autel en marbre blanc pour cacher la porte de la sacristie qui est là juste derrière. Nous sommes ici face à une architecture typique du 19e siècle. On est de style néo-gothique et à l'époque, en fait, on cherche vraiment à reproduire la splendeur des cathédrales du Moyen-Âge, même en Lozère et même pour les chapelles.
C'est vrai qu'on peut le décrire pour nos auditeurs, mais ce qui frappe d'emblée ici, c'est effectivement les décors.
Eh oui, et le décor, il est exceptionnel, mais il ne date pas du tout de la construction de la chapelle. En fait, il a été réalisé en 1936, un petit peu après.
Et tu peux nous dire un peu pourquoi on a réalisé ce décor ici, donc dans les années 30 ?
Oui, alors il faut savoir qu'on a peu d'archives qui relatent l'histoire de ce décor. On a redécouvert ce lieu grâce au travail de Nicolas Bru. Nicolas Bru, c'est un conservateur des monuments historiques pour la Drac Occitanie et il est doctorant en histoire de l'art. Alors, ce que nous apprend Nicolas Bru, c'est qu'en 1936, le chanoine Copper, qui est alors supérieur et aumônier de la communauté, prend contact avec Henri de Maistre sur les conseils d'un architecte mandois qui s'appelle Jean Pigère. Et en fait, il va demander à Henri de Maistre de réaliser un décor peint dans la chapelle pour compléter l'autel en marbre blanc et les vitraux historiés du XIXe siècle.
Et c'était qui ce Henri de Maistre ?
Alors Henri de Maistre, c'est l'administrateur et le directeur des ateliers d'art sacré.
Les ateliers d'art sacré sont une école d'art française fondée en 1919 à Paris par Georges Desvalières et Maurice Denis. En 1926, la direction de l'école est déléguée à Henri Demestre, qui avait débuté comme élève en 1921. Cette école ferme ses portes en 1947.
Alors cette école, elle va jouer un rôle important dans l'émergence d'un art religieux moderne au cours de l'entre-deux-guerres. Alors le but de cette école était de former des artistes chrétiens et de fournir aux églises et aux fidèles des œuvres religieuses qui soient également des œuvres d'art à part entière, mais des œuvres du début du XXe siècle. Alors sur le plan artistique, les directeurs de l'école souhaitent s'opposer aux mouvements d'avant-garde comme le cubisme ou le futurisme, au profit d'un art figuratif, symboliste et qui assume vraiment un caractère décoratif. Mais on souhaite également se proposer un art religieux qui va tourner le dos aux œuvres trop académiques, comme les productions saint-sulpiciennes, c'est ce qu'on dit pour toutes ces œuvres qu'on trouve dans les églises et qui débordent vraiment à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Et donc, comment se passe le chantier alors ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après leur formation en peinture, sculpture ou vitrail, certains élèves de l'école sont devenus compagnons et ils vont continuer, parallèlement à leur carrière individuelle, à collaborer à des chantiers collectifs sous la direction de leur maître. Ben, c'est pour ça, en fait, que durant l'été 1936, 12 peintres issus des ateliers d'art sacré, on a 6 femmes et 6 hommes, et ils sont dirigés par Henri Demestre et ils vont venir à Mende pour réaliser un chantier collectif pour orner ensemble les murs de la chapelle. Alors c'est vrai que les ateliers d'art sacré ont œuvré dans un certain nombre d'églises, notamment à Paris. Et généralement dans ces églises parisiennes, les artistes des ateliers d'art sacré ont réalisé des décors complets en peignant la totalité des murs. Ici, ce n'est pas le cas, en fait. On n'est pas devant un décor unique, mais plutôt devant une série de tableaux cette série va prendre place dans différentes parties de l'édifice. Et chaque tableau est signé du nom de son auteur.
Justement, on est dans la nef, là, on a les tableaux devant nous. Qu'est-ce qu'ont voulu représenter ces 12 peintres ?
Alors, le programme iconographique, il comporte en fait 11 scènes avec un double niveau de lecture. Les peintres, ils ont choisi de représenter des thèmes tirés des évangiles, des thèmes religieux, mais ils ont également souhaité évoquer la vie des sœurs de la communauté et des orphelines. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Xavier et Thomas, mais on peut dire quand même qu'il y a beaucoup de douceur et de tendresse dans ces peintures. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont représentés. Et les enfants et les religieuses de la communauté ont certainement inspiré les artistes et ils ont peut-être même servi de modèle.
Des enfants avec un visage assez rond, au final.
C'est ça, et des traits assez doux, en fait. Ils ont l'air assez heureux, ces enfants.
Tu peux un peu donc nous détailler un peu ces tableaux ?
Oui, alors là, on est tourné devant le cœur. Alors, on peut voir que vraiment, dans le cœur, on a 3 panneaux qui se distinguent un petit peu des autres peintures, parce que ces 3 panneaux sont sur fond rouge. Ils imitent un petit peu des tapisseries. Et donc, la thématique choisie, c'est l'Eucharistie. Donc, on a au centre ce qu'on appelle le service divin. Et le service divin, il est signé par Pauline Peniez, je ne sais pas comment on prononce son nom. Et de chaque côté, on a les figures protectrices, avec le Christ sur notre gauche, qui est entouré par des enfants. Celui-là, il est signé de la main de Henri Demestre. Et de l'autre côté, on a Notre-Dame de la Providence, qui est signée de Paul de la Boulay.
En bas à droite, on voit les signatures des peintres.
Exactement, chaque tableau est signé, en fait.
Et donc, dans le renfoncement de la nef, là, pour le coup, c'est 4 scènes qu'on va voir.
C'est ça. Alors, si on regarde on va les prendre dans l'ordre. Donc, ces 4 scènes, elles sont consacrées aux activités des sœurs, mises en parallèle avec des épisodes biblique. Alors, on s'est déplacé vers le nord de la nef, et on a d'un côté la vocation, par Odette Bourguin. Alors, et là, devant nous, on a la profession religieuse qui est signée de la main d'Yvonne Soustra. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a représenté les bâtiments en fait, de la Providence. On reconnaît la chapelle avec son clocheton.
Oui, le clocheton, et puis on peut d'ailleurs voir, il y a beaucoup de montagnes, mais j'imagine que c'était pour représenter le mont Mima qu'on a juste derrière nous. On peut continuer un peu plus au sud avec donc l'éducation par Marie Belmont.
Exactement. Donc là, on a l'éducation et en face, signé de la main de Simone Froment, on a le soin aux malades.
Qui sont complétés par 2 autres scènes au milieu de la nef. Tu peux un peu nous parler, donc, à la fois côté nord comme côté sud?
Oui, alors côté nord, on a le martyr de Saint-Jean et Saint-Paul qui est signé par Charles Plessard. Et alors, ce tableau-là, avant, il était occupé, il y avait une chaire en fait au centre de ce tableau. Et donc, la composition en a tiré parti. Et c'est également le cas en face, puisque Germaine Leclerc a représenté la crucifixion et elle va se servir du grand crucifix central pour sa composition.
Effectivement, sur la partie centrale, la chair a disparu. Maintenant, on peut admirer les personnages au centre du tableau. C'est pas terminé, il y a aussi tout ce qui se passe en partie haute dans cette chapelle.
Et oui, en partie haute, on a une peinture un peu différente, puisque le registre supérieur de l'édifice, en fait, est dédié aux figures célestes. Et ces figures célestes sont vraiment traitées de façon différente, puisqu'elles sont en grisaille, avec un camaïeu de gris et de bleu. Alors, si tu veux, on peut regarder sur les voûtins du chœur, là. On peut retrouver les archanges Gabriel, Michel et Raphaël, qui sont signés par Claude Voyaume. Et ensuite, on retrouve les autres figures célestes entre les baies, et on représente là les béatitudes. Alors, les béatitudes, hein, elles sont associées à des figures de saints aux paroles du Christ. On peut retrouver Saint Jean-Baptiste, la Vierge, Marie-Madeleine, Jeanne d'Arc. Et donc, ces peintures-là sont signées par Jacques Ernotte. Alors, Xavier et Thomas, je ne sais pas si vous avez compté le nombre d'artistes, mais il en manque un, en fait. Je vous ai parlé de 12 artistes, et j'en ai cité que 11, puisqu'en fait, le 12e artiste présent, il n'a pas signé d'œuvre. Il s'agit du peintre Pierre Dubois. Et à Mende, il avait sans doute un rôle d'organisateur et de coordinateur du chantier.
Merci de le préciser, parce que j'allais te poser la question. Je me disais bien qu'on n'était qu'à 11 et pas à 12. Justement, ces 12 peintres, 6 hommes, 6 femmes, ils ont utilisé quelles techniques?
Alors, on a identifié 3 techniques différentes. Pour les murs de la nef, il s'agit de la fresque, la peinture à fresco, qui consiste à peindre avec des pigments délayés dans de l'eau sur un enduit de chaux frais et humide. Alors que pour la partie haute, les décors sont certainement réalisés à la détrempe sur enduit sec. Alors il faudrait vraiment aller voir avec un échafaudage pour analyser, pour être vraiment sûr de ça. Peut-être plus tard. Et enfin, il y a un autre artiste qui a choisi une technique particulière, c'est Charles Plessard. Et lui, il va utiliser le stick B. On est en 1936. Et le stick B, c'est en fait une peinture industrielle qui a été inventée au début des années 1920. Donc, il a essayé une peinture moderne pour faire son tableau.
C'est ça, une peinture moderne. On disait sur la partie haute, donc on a ces dessins-là qui sont à chaque fois entremêlés des vitraux. Est-ce que c'est les vitraux qu'on a devant nous, ils datent aussi de la même période?
Alors non, il y a 2 types de vitraux différents. On a les vitraux qui surmontent la nef. Et tu parles peut-être de la verrière qui est dans le chœur. Le décor peint, il va être complété par quelques pièces de mobilier. On va d'abord avoir un chandelier en bronze qu'on a dans le chœur, qui est signé de Richard Desvalières. On va également réaliser une tenue liturgique pour la bénédiction de l'église en août 36 pour le chanoine Copper. Alors là, cette tenue n'est pas signée. On a également un orgue qui est installé en 1937, qui est réalisé par Théodore Jacquot. Et on a aussi un maître-autel en pierre et mosaïque qui est aménagé après-guerre pour remplacer l'ancien. Et donc les vitraux dont tu me parlais, je pense que c'est ceux qui sont dans le chœur. Et eux, ils datent de 1974. En fait, on va les commander à l'artiste Jean-Marie Balin. Et ce sont des verrières abstraites en fait, qui vont remplacer les vitraux du 19e siècle. Et c'est vrai que les vitraux du 19e siècle sont conservés dans la nef.
Effectivement, on voit bien qu'on change de style. C'est quand même assez impressionnant quand on rentre cette chapelle et tout ce décor. Pourquoi c'est pas plus connu à la fois autant des Mandois que des Lozériens?
Alors c'est vrai, on ne sait pas vraiment pourquoi ce décor est resté très confidentiel. On sait qu'il a pourtant été conçu dans le but de promouvoir les principes des ateliers d'art sacré en province. C'était vraiment l'idée et la volonté de servir d'exemple pour espérer de nouvelles commandes.
Mais on peut imaginer que le contexte de l'époque, donc de la fin des années 30 et de la guerre, n'a pas aidé à trouver de nouvelles commandes.
Et ce qu'on peut dire, en fait, c'est que le décor monumental de la chapelle de la Providence, c'est quand même un témoignage important. Il témoigne de la volonté des créateurs des ateliers d'art sacré de proposer un nouvel art religieux durant l'entre-deux-guerres. On peut aussi quand même saluer l'audace, notamment du chanoine Copper, qui a su faire confiance aux artistes de leur temps. Et on le redécouvre aujourd'hui grâce au travail de Nicolas Bru.
Et ben on va arriver bientôt doucement à la fin de cette émission, mais on a bien toujours, quand on va visiter un lieu, parler d'actualité. C'est quoi un peu l'actualité justement de cette chapelle, Xavier ?
Alors, la chapelle a été récemment rénovée. Les Amis de la Providence ont financé un ravalement des façades pour stopper les infiltrations d'eau. L'orgue a été entièrement restauré en 2025 et, cerise sur le gâteau, la chapelle a été inscrite monument historique le 19 mars 2026.
C'est tout récent.
Exactement, d'où l'actualité. Et l'actualité continue puisqu'à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez avoir la chance de la découvrir. On vous propose en fait deux visites exceptionnelles et ces visites sont organisées le dimanche 20 septembre à 14h et 15h30. Et pour l'occasion, on vous propose une découverte à deux voix puisque les visites seront ponctuées d'intermèdes musicaux d'orgue. Alors si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez réserver, vous pouvez contacter le Pays d'Art et d'Histoire ou l'Office de Tourisme Cœur de Lozère.
Mais ce n'est pas tout, parce que le programme est chargé pour ces Journées européennes du patrimoine, dont la thématique est le patrimoine en péril. Et ce que nous avons retenu, nous, au Pays d'Art et d'Histoire, ce sont les églises et chapelles du 19e siècle. Le samedi 19 septembre, à 14h et 15h, nous ferons visiter la chapelle de l'Évêché. À 16h30, j'aurai le plaisir d'assurer une conférence au Chastel Nouvel à l'occasion des 150 ans de l'histoire de l'église donc du Chastel. Suivi à 18h d'un concert du chœur Guillaume dans l'église. Et enfin, le dimanche 20 septembre à 10h, on va se déplacer un tout petit peu puisqu'on va partir à l'Habitarelle d'Altier, où également j'assurerai donc une conférence sur l'histoire de cette église méconnue.
Le samedi 19 septembre, la visite de la chapelle de l'Évêché, on l'avait faite en visite radiophonique, donc si ça peut vous donner envie d'aller la découvrir cette fois-ci en physique, écoutez avant l'épisode, ça peut être un plus, j'imagine. Bah justement, un autre plus qui fait un peu le sel de cette émission, auditrice, auditeur, vous le savez, on aime bien vous donner quelques clés, quelques anecdotes pour briller en société. Justement, Xavier, une petite anecdote pour briller en société, tu vas nous amener où ?
Je vais vous amener dans un lieu particulier qui va nous ramener donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de Mandois connaissent un petit peu l'histoire, mais sans en savoir les tenants et les aboutissants. Et donc, on va ouvrir la porte qui est derrière l'hôtel et on va découvrir ce lieu.
Allez, c'est parti. Alors là, on vient de passer plusieurs portes. On a descendu un tout petit escalier en colimaçon, Xavier.
Et oui, alors pour reprendre l'histoire, durant la Seconde Guerre, le nombre de jeunes filles accueillies à la Providence grandit. Une quinzaine de religieuses s'occupent d'à peu près 80 enfants. Suite au rafle organisé en Lozère, le chanoine Copper, qui est alors aumônier de la communauté, demande à la mère supérieure d'accueillir des enfants juives. Seulement 4 personnes sont au courant, donc le chanoine, la mère supérieure et 2 religieuses. Une cachette est aménagée au sous-sol de la chapelle. On y accède par la porte de la sacristie, donc par laquelle on vient de passer, cachée donc par le maître-autel. C'est un refuge pour échapper à une rafle éventuelle. Sur la quinzaine d'enfants juives, certaines sont simplement de passage, d'autres resteront jusqu'à la libération. En 1995, une enfant recueillie, Gabi Patsy, née Hochmann, parvient à renouer le contact avec la communauté. Et le 5 mars 2012, la mère Rose Brugeron, sœur Marie-Émilienne et le père Copper sont reconnus juste parmi les nations et leurs noms sont gravés sur le mur de Yad Vashem à Jérusalem.
Une histoire passionnante et c'est fou de se dire qu'on se trouve là actuellement, là où ces enfants étaient cachés. On va terminer la visite justement sur cette belle anecdote et ici sur ce lieu, Bénédicte, pour la prochaine visite radiophonique, vous m'amenez où ?
Eh bien le mois prochain, on se retrouve pas très loin d'ici, dans un lieu qu'on connaît bien maintenant et on parlera d'architecture, de ruralité, de paysage, de photographie. Alors on garde un peu la surprise, mais je peux te dire que plusieurs regards sensibles vont se croiser.
Eh bien, merci beaucoup pour cette visite et on se dit à la prochaine sur 48FM.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
la chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.